Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
C'est bon, apprenez à venir dans sa présence. Vous savez, la présence de Dieu et la relation avec Dieu, c'est jour après jour que ça se travaille. Il y a des moments, il y a des saisons, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai bien vu dans ma vie, bien des fois. La présence de Dieu est là et on est porté par sa présence. Et puis il y a des moments où c'est plus difficile, entre guillemets. Mais c'est là où on apprend à marcher par la foi. Il y a des moments où les choses avancent très vite. Et puis il y a des moments où tu as l'impression que rien n'avance. Il faut que tu apprennes dans ces jours-là à être ferme. À continuer ce que tu fais. Dieu te rencontrera toujours là où il y a de la foi. Et là où il y a de la persévérance. Dieu ne te rencontrera jamais si à chaque obstacle, tu es prêt à abandonner. Mais Dieu te rencontrera là où tu es ferme dans ta foi. Là où tu es prêt à dire, j'irai jusqu'au bout et je verrai les promesses qu'il m'a faites. Et c'est là où tu vas voir de plus en plus les choses se produire dans ta vie. À celui qui est ferme dans ses sentiments, nous dit la parole de Dieu, tu lui assures la paix. Mais être ferme dans ses sentiments, c'est avoir pris des décisions. Avoir pris une direction. Bien sûr, motivé par des directions. Par des décisions, excusez-moi. Et tu demeures ferme dans ces choses. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se produire. Des fois, c'est pas tout de suite et c'est rarement tout de suite. Mais tu sais que tu obéis à la parole. Tu sais que tu fais la bonne chose, que tu es au bon endroit, au bon moment. Persévère, mon frère, ma sœur. Ne te laisse jamais détruire par le découragement. Même dans les moments les pires. Il y a cette histoire avec ce réformateur Luther. Dans les 15e siècle. Et cet homme qui était issu de la religion traditionnelle, qui était prêtre, et d'un seul coup qui avait découvert dans les Écritures que la justification, c'est-à-dire on pouvait s'approcher de Dieu, non pas par nos œuvres, mais par la foi.
En
relisant l'épître aux Romains, il a découvert ces choses.
Et
il a dit le salut, c'est par la foi et pas par les œuvres. C'était une révélation pour lui. Mais il raconte dans son témoignage combien il y a eu des moments où le doute est venu. Et un jour, il s'est énervé contre son doute. Il a jeté son encrier. Là où il y avait de l'encre, où à l'époque on écrivait avec une plume. Il a jeté ça comme ça. D'énervement, et il a parlé au diable. Et il a proclamé la parole de Dieu. En proclamant le salut par la foi. La justification par la foi.
Il y a des moments où ta foi sera troublée. Des moments où tout semblera te décourager. Mais c'est là où il faut que tu apprennes. Cette marche extraordinaire qui t'amènera là où personne ne pourra t'amener. Qui te fera découvrir des réalités de Dieu que tu ne découvriras dans aucun livre. Dans aucune prière que quelqu'un pourra te faire pour toi si tu n'as pas la foi. Parce que la foi s'expérimente. Et c'est notre sujet ce soir encore. Nous en sommes dans une petite série sur les trois types de foi. Et la dernière fois, nous avions commencé à voir ce que c'est que la foi des sens. Et nous avons remarqué pour que quelqu'un se donne à
Christ,
il doit découvrir que Dieu existe. Car la Bible nous dit bien que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Je vous rappelle que c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, et la première chose qu'on a remarqué, c'est que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et après, vous vous rappelez de cette partie de verset, bien, tiens, on va la relire, en Hébreux 11, verset 6. Ça va vous aider à fixer mieux ce verset dans vos cœurs. La foi est un sujet très passionnant. Et c'est important d'être renouvelé régulièrement dans les enseignements de la foi. Parce que la foi est un outil dont tu dois apprendre à te servir chaque jour. Qui doit se développer dans ta vie spirituelle. Parce que cette foi, c'est quelque chose qui t'amènera, comme je le disais tout à l'heure, nulle part. Où tu, je dirais, tu, sans cette foi, tu ne pourras pas aller là où Dieu veut que tu ailles. Donc rappelez-vous, verset 6, Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, nous l'avons vu, d'être approuvé de Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et après, nous verrons plus tard la deuxième partie et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Et la première chose, bien sûr, c'est qu'il faut que les gens croient que Dieu existe. Et nous avons remarqué que ce n'était pas une croyance. Là, ici, la Bible ne parle pas d'une croyance générale. Les gens qui disent, oui, je crois en Dieu. Là, c'est beaucoup plus. Ce verset veut dire beaucoup plus. Il signifie vraiment, en fait, que tu crois dans l'existence de Dieu, mais tu crois aussi que Dieu est capable d'agir, c'est-à-dire qu'il peut être personnel.
C'est-à-dire
qu'il peut agir dans ta vie. Et comment, par exemple, un pécheur peut-il mieux venir à Christ? Que s'il a des preuves de l'existence de Dieu. Rappelez-vous, nous avions pu avoir un arrière-plan religieux, quel qu'il soit, dans nos vies ou pas du tout. Mais ce qui nous a amené à Jésus, d'abord, le premier jalon pour que nous arrivions à
Christ,
c'était que Dieu nous prouve qu'il était bien vivant et qu'il pouvait agir. On avait besoin de preuves tangibles, visibles. De l'existence de Dieu. Et je vous ai montré que la Bible nous montre par exemple dans Romains que quand on regarde l'univers entier,
biratwereka ko mu Baroma baratubwira ngo yuravye isi yose bigukikuje.
Moi j'aime bien, j'aime beaucoup regarder des magazines de science, beaucoup de choses sur la science parce que je trouve ça très intéressant.
Je ndakunda kuraba ibintu by'ubushakashatsi bitabo bivuga ku bushakashatsi.
Et la science c'est très passionnant parce que ça nous montre la grandeur et la puissance de Dieu.
Urukuraba ibintu by'ubushakashatsi bikwereka ubunini bw'Imana.
Et en fait, quand on regarde les étoiles,
uravye nk'inyenyeri,
quand on regarde les planètes, quand on regarde la nature,
uravye nk'amasi, ukaraba ibidukikuje.
Eh bien, on ne peut dire qu'une chose, c'est « Waouh, Dieu est grand, il a fait tout ça.
Wow. »
Mais ça, ça ne nous amènera pas au salut. Mais c'est une étape. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. C'est que nous passions et que vous appreniez à faire passer les gens que vous amenez au Seigneur à des preuves tangibles de l'existence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut être quelqu'un de personnel.
Et
nous avons vu cet exemple avec Nathanaël dans Jean chapitre 1 où Jésus lui dit je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Et là, ça a déclenché quelque chose chez Nathanaël. On ne sait pas ce que Nathanaël faisait sous l'arbre, mais apparemment, c'était très secret. Et parce que Jésus lui a dit ça, il a cru. Ensuite, nous avons vu la résurrection de Tabitha et les gens aussi dans la ville de Lydde qui se sont convertis quand Pierre a prié. Donc c'est Pierre qui a fait ces choses. Hein. Pierre fait lever un paralytique par la puissance de Jésus. On voit que le village entier se convertit. Il ressuscite Tabitha.
Arazura Tabitha.
Et là, les gens sont complètement choqués.
Aho abantu barazaza nibwo baratangara.
Et cette foi, souvent, va. Cette foi tangible, c'est-à-dire que cette foi naturelle, va amener les gens à se poser des questions sur Dieu en disant waouh, vraiment là, j'ai des preuves de Dieu. Nous avons un autre exemple, c'est Thomas. Thomas, il a voulu voir dans les mains et les pieds et le côté de Jésus ce qui s'était passé. Et souvent, c'est ce dont nous avons besoin pour venir à Jésus. Ou parfois même, eh bien, quand nous avons tout juste donné notre vie au Seigneur et que nous sommes très troublés, eh bien, il faut que Dieu agisse et fasse quelque chose. Et quand on l'a vu agir à ce moment-là, par exemple, quand tu t'es donné à Jésus, quelqu'un a prié pour toi, tu étais tout petit bébé en Christ, cette personne avait la foi et par exemple, tu étais malade, et il a prié pour toi,
tu as
vécu une guérison, ou
tu avais
un problème, tu n'avais pas de boulot depuis tant de temps, il a prié pour toi, tu étais tout petit bébé en Jésus,
et tu as
vu le Seigneur agir. Ça, c'est la foi des sens, parce que ce n'était pas ta foi. Et tu en as eu besoin. Cette foi des sens, nous en avons besoin pour venir à Jésus. Pour avoir des preuves que Jésus est bien celui dont on est en train de nous prêcher. Mais aussi souvent, quand on est bébé spirituel, on a besoin, entre guillemets, de signes du Seigneur. Mais cette fois-là ne va pas nous amener très loin. Mais c'est souvent les premières choses qui nous permettent de nous remettre en question et de nous secouer quelque part. Nous avons vu aussi qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui ont un bon cœur,
Et
qui vont provoquer un certain nombre de choses de la bonté de Dieu envers leur
vie. On a
vu l'exemple du centenier
qui
était romain, donc un païen qui n'avait pas le droit de quoi que ce soit.
Et
cet homme avait un serviteur qu'il aimait beaucoup qui était très malade.
Et
il envoie des gens pour demander à Jésus de venir prier pour son serviteur.
Il ne se sent
pas digne d'aller.
Au
départ, en tout cas, si on lit bien l'histoire.
Et il
dira à Jésus, je ne suis même pas trouvé digne, je ne me suis même pas senti digne d'aller vers
toi. Et
que tu viennes chez
moi.
Mais dis seulement une parole.
Mais
juste avant cela, quand les serviteurs qu'il avait envoyés vers Jésus rencontrent le Seigneur, ils disent quelque chose au Seigneur. Il mérite que tu lui donnes
ça.
Car il a construit notre synagogue.
Moi,
ça m'a étonné ce morceau de
verset.
Jésus ne dit pas,
de
toute façon, je donne tout par grâce.
Non, il ne va pas
répondre ça, le Seigneur.
Il
va agir. Rappelez-vous aussi de ce Corneille.
Corneille
qui faisait ce qu'il pouvait au niveau de sa spiritualité, c'était quelqu'un qui n'avait aucune
connaissance. Et
quand l'ange lui apparaît,
il
dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant
Dieu. Et je vous
ai montré qu'il y a certaines actions que nous plaçons qui vont attirer des choses surnaturelles.
Que
parfois nous faisons d'une façon assez maladroite.
Mais
avec le cœur
qui est
bon et le Seigneur voit notre cœur.
Ce n'est
pas gagner la faveur de Dieu avec les
œuvres. Mais
c'est provoquer la faveur de
Dieu
en agissant avec un bon
cœur. Et
je vous rappelle ce témoignage de Debbie.
Et
quand Debbie Rich est tombée très malade,
qu'elle
a failli mourir, on connaît son témoignage,
René
Howard Brown a fait cette réflexion. Il a dit, le Seigneur va agir. Parce que Debbie, c'est une donneuse pour le royaume. C'est quelqu'un qui donne pour le
royaume. Et
je crois qu'il y a des actions que nous plaçons, frères
et sœurs,
qui provoquent des choses parfois spectaculaires de la part de
Dieu.
Nous en avons parlé la dernière fois.
Maintenant,
nous allons voir le deuxième type de foi.
Qui
est la foi biblique. Parce qu'avec la foi des sens, vous n'irez pas loin.
C'est
pour ça d'ailleurs que quand les chrétiens prient en disant « Seigneur, donne-moi un signe »,
s'il
se passe ceci ou si mon patron m'appelle
ou
si quand je vais parler à telle personne, elle me dit
ça,
alors Seigneur, ça veut dire que tu veux que je fasse ça ou ça.
Ça,
c'est les bébés spirituels qui
font ça.
Ne faites jamais cela.
Vous
avez grandi davantage.
Vous
devez apprendre à marcher dans la foi
biblique.
La foi des sens,
c'est
quelque chose, comme je vous le disais, dont Dieu va se servir souvent pour nous amener à Jésus, ou que Dieu va utiliser parce qu'on a besoin d'être secoué tout au début de notre vie
spirituelle. Mais
ce n'est pas une foi qui vous amènera loin. La foi qui vous amènera loin, en tout cas dans un premier niveau, et je vous montrerai un autre niveau qui est absolument fabuleux,
mais
dans lequel il est rare d'entrer. atari benshi babishikamo. On appelle la foi spéciale.
Tuzokwiga ico bita ukwizera
kudasanzwe. Ça sera le troisième type de foi que nous allons étudier.
Nigo rugezo rwa gatatu rwo kwizera tuzokwiga ko.
Le deuxième type de foi c'est la foi biblique.
Uko kwizera kugira kabire no kwizera ko mu ijambo ry'Imana.
Et cette foi biblique c'est la foi avec laquelle vous devez œuvrer le plus.
Niko kwizera rero ukeneye gukorera ko cyane.
Ça fait toute une marche.
Novuga n'urugendo rurerure.
Alors la Bible nous dit dans Hébreux 11 verset 6. On va reprendre, donc, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, on a bien compris ça. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, maintenant vous avez compris, ça veut dire qu'il y a des preuves tangibles de l'existence de Dieu et du fait qu'il va agir.
Qu'il
est capable de sauver,
qu'il est capable de guérir,
qu'il est capable de changer une situation financière,
qu'il
est capable de changer une situation relationnelle, qu'il est capable de toutes choses. Dieu peut le faire. Ok, ça tu peux le croire. Et tu peux l'avoir vu avec la foi d'essence. Maintenant, regarde bien ici la dernière partie du verset. Et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Donc nous allons parler que notre foi va être récompensée. Notre foi va être récompensée, va être rémunérée. Le verbe ici qui est utilisé, c'est le verbe rémunérer. Et une rémunération, qu'est-ce que c'est ? Une rémunération, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Une rémunération,
c'est donc
un salaire, c'est quelque chose que tu vas gagner par rapport à un travail que tu as fait. Et ta foi va œuvrer, va travailler. La rémunération de ta foi, ça va être le résultat, c'est-à-dire l'action divine. Pourquoi tu as cru et tu as prié? Mais il va falloir que tu apprennes à faire travailler ta foi jusqu'à temps qu'elle produise ce salaire, c'est-à-dire le résultat, ce pourquoi tu crois. C'est exactement ce que ce verset veut dire, cette partie de verset veut dire. Donc il va falloir que tu apprennes à savoir ce qu'est vraiment ta foi, la foi biblique, la faire travailler en ta faveur jusqu'à temps d'obtenir le résultat que tu désires, ce pourquoi tu as prié. Parce que si tu pries pour quelque chose, c'est que tu veux un résultat. On rencontre beaucoup de chrétiens qui prient juste pour prier. Non, on prie pour avoir un résultat. On doit prier avec ce qu'on appelle efficacité, c'est-à-dire pour voir le résultat désiré. Si tu places une demande devant Dieu, que tu crois que Dieu est quelqu'un de personnel, qu'il est tout puissant, qu'il est capable d'agir, tu veux un résultat par rapport à ce que tu as demandé. Ou alors ça veut dire que tu ne comprends pas ce qu'est la prière. Mais la prière, c'est de placer des demandes devant Dieu avec des conditions de foi, de faire travailler cette foi jusqu'à temps qu'elle produise le résultat
désiré.
C'est-à-dire la réponse à ta prière. Et en disant, cette année, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour mon mari et le voilà. Ou j'ai prié pour ma femme et la voilà. Cette année. Ou quelqu'un se dit, voilà, vraiment, je sais que je dois me marier, le Seigneur t'a vraiment montré que c'est la bonne personne. Tu te retrouves devant un obstacle financier. Tu dois te mettre dans la foi et faire œuvrer ta foi et voir ta foi être rémunérée. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Je ne dis pas ce que le Seigneur va faire doit être le résultat de tes œuvres. Je ne dis pas que ce que le Seigneur va faire, c'est le résultat de tes œuvres. Parce que Dieu nous donne par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes comment la foi fonctionne. La faire œuvrer en ta faveur. Jusqu'à temps de voir le résultat désiré. Tu peux avoir des objectifs financiers. Tu peux avoir des objectifs relationnels. Tu peux te dire, non, moi, je veux dans ma santé, je veux être tranquille. Je veux que cette année, je sois entièrement, entièrement en bonne santé. Je veux que cette année, voir mes enfants faire ceci ou cela. Je veux acquérir telle ou telle chose. Ça, c'est ta foi. Qui doit œuvrer et qui va œuvrer. Notre foi va dépendre de quelque chose de très important. C'est de la parole de Dieu. Regardons ensemble Romains 10, verset 17. C'est un verset qui est très important sur lequel vous devez vous appuyer. Vous devez apprendre à connaître des versets clés, à les méditer et apprendre à les pratiquer. La parole de Dieu nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors rappelle-toi que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si tu veux plaire à Dieu, ce n'est pas en faisant des jeûnes et prières. Le prier pendant des heures et des heures, ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ta foi. Et ça, il faut que ce soit très clair pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus était en train d'exercer son ministère terrestre, nous allons voir bien des exemples. Et après, je vais vous expliquer à propos de ce mot « parole » qu'il y a ici. Jésus cherchait la foi. Là où il y a de la foi, il va y avoir un contact surnaturel avec le ciel. Je répète, là où il y a de la foi, il y a un contact surnaturel avec le ciel. Quand tu marches dans la foi, tu es connecté avec le ciel. C'est-à-dire que tu es connecté avec Dieu. Et tu marches dans les réalités divines. Lorsque tu n'es pas dans la foi, tu ne marches pas dans les réalités du ciel. Tu n'es pas connecté avec le ciel. Tu n'es pas branché avec le ciel. La puissance qu'il y a au ciel ne peut pas être déversée dans ta situation. Ce n'est pas la prière qui permet à la puissance de Dieu de s'écouler. Parce qu'une action de Dieu, c'est quoi? Réfléchissez, qu'est-ce que c'est qu'une action de Dieu sur la terre? Une action de Dieu sur la terre, c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu qui vient et qui touche une situation humaine. Ça peut être un besoin particulier. Quelqu'un qui est perdu et qui vient de tout juste sauver. Parce qu'il a la foi du salut. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est touché dans ses finances. Quelqu'un qui est guéri par la puissance de Dieu. Des personnes que Dieu connecte surnaturellement. Toutes sortes d'actions de Dieu sont provoquées par notre foi. Ta foi provoque l'action de Dieu. Ta foi te branche avec le ciel. Permet à la toute puissance de Dieu de couler sur la terre. Et Dieu, pour couler sur la terre avec sa puissance, eh bien, il a besoin de canaux. Comme l'électricité. Nous avons un compteur de l'autre côté de la parcelle. Mais on pouvait avoir l'électricité au compteur. Tant qu'on n'a pas tiré des fils jusque dans la salle ici, et relié les appareils électriques, la puissance de la régie des eaux pouvait être là quand ils ne sont pas en coupure. On suppose que le Burundi est parfaitement électrifié. La puissance était disponible là. Mais elle n'était pas disponible dans la salle. La manifestation de cette puissance. On a des lampes pour nous montrer qu'il y a la puissance électrique. Si d'un seul coup, pouf, les lampes s'éteignent. Que tout s'éteint. Ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance là-bas.
Mais
Dieu soit béni, il y a une différence entre Dieu et la régie des eaux. Lui, il est tout puissant. Sa puissance est tout le temps disponible. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est omnipotent. Alors, ça veut dire, bon, en Kirundi, c'est évidemment, c'est tout puissant, d'accord, mais omnipotent, ça veut dire que potentiellement, dans le mot français, il y a le mot potentiel ici. C'est-à-dire que la capacité de la puissance est là. Mais il y a une différence entre cette puissance qui est là, à disposition, Dieu est tout puissant, et que cette puissance se manifeste. Si nous fermons tous les interrupteurs ici, la lumière partira. Est-ce que ça voudra dire que c'est forcément une coupure au compteur, non? Non, vous avez remarqué que pour chaque appareil électrique, il y a beaucoup d'analogies entre la puissance de Dieu dans le surnaturel et l'électricité dans le naturel. Quand on comprend comment la puissance électrique dans le naturel fonctionne, c'est très facile de comprendre la puissance surnaturelle de Dieu. Il y a un grand prédicateur qui a dit que l'onction, la présence manifeste de Dieu, c'est l'électricité dans le domaine spirituel. Et dans le naturel, nous avons l'électricité. On a des réflexes qui sont tout simples. Quand tu as ton téléviseur devant toi, tu veux regarder la télé. Qu'est-ce que tu fais? Tu es comme ça. Et tu dis téléviseur. Je veux regarder RTNB. Tu fais ça? Non, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de ton téléviseur et tu appuies sur le bouton. Est-ce que tu réfléchis quand tu appuies sur le bouton? Non, parce qu'un jour on t'a montré ça. C'est comme quand ton téléphone sonne.
Tu n'es
pas en train de regarder. Il fait du bruit ce truc-là. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit ce machin-là?
Non,
tu sais que quelqu'un t'appelle. Mais pour recevoir l'appel, tu vas appuyer sur le bouton. on fait ces choses naturellement.
Quand je suis
dans une pièce qui est sombre, que je connais très bien chez moi, la première chose que je fais avant d'entrer dans la pièce, j'appuie sur l'interrupteur. Parce que je sais que c'est ça qui va permettre à la puissance électrique de jaillir au travers de mon ampoule. De manifester cette énergie dont j'ai besoin. J'ai besoin de lumière. Donc j'ai besoin que l'énergie qui est à mon compteur se manifeste sur mon ampoule. J'appuie sur mon bouton. Les dames, elles vont être savantes hein, ce soir. Hein, tu as vu, hein, elles vont apprendre beaucoup de choses.
Et
en fait, c'est une différence de voir la puissance potentielle de Dieu, de savoir et de dire Dieu, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant, Dieu. Oh, je te loue car tu es tout puissant. Mais Dieu, qu'est-ce que je souffre? Ma vie est une galère. J'ai des problèmes là. Ça veut dire que ce sont des gens qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu. Mais ils ne savent pas comment la puissance de Dieu est régie, comment elle fonctionne. Mais la puissance de Dieu fonctionne avec une grande loi. C'est la loi de la foi. C'est-à-dire savoir comment amener cette puissance potentielle de Dieu à se manifester. C'est-à-dire à se rendre visible dans tes situations. Ça s'appelle la foi. La foi va permettre à la puissance potentielle de Dieu de venir se manifester dans une situation par rapport à une prière et au travers de quelqu'un qui croit. Quand déjà tu comprends bien ça dans ta tête et dans ton cœur, tu vas commencer à comprendre les principes de la foi. Parce que souvent les gens prient dans tous les sens. Et ils ne voient pas la manifestation de Dieu parce qu'il leur manque l'essentiel. Ils peuvent prier correctement, pour certains en tout cas. Ils peuvent avoir un bon cœur. Mais si tu ne connais pas les principes de la foi, tu n'arriveras pas à voir la puissance de Dieu se manifester dans tes situations. Et ça, c'est très frustrant. Surtout quand tu entends des témoignages de gens qui sont dans les mêmes, qui étaient dans les mêmes situations que toi et qui ont vu Dieu agir. Et toi, tu te dis, mais mince, moi pourtant je prie et je connais ce frère ou cette sœur. Moi, je suis plus spirituel que cette personne. Ça fait plus longtemps que je suis dans le Seigneur et même je la connais bien. Elle avait bien démarré avec le Seigneur, après elle avait rétrogradé. Maintenant, c'est vrai, elle est revenue au Seigneur. Et moi, j'ai eu un bon parcours. C'est bien que tu aies eu un bon parcours. C'est très bien. Mais peut-être que cette personne se débrouille mieux dans la foi que toi. Donc il va falloir que tu progresses. C'est bien, c'est une excellente chose de tenir ta vie correctement et d'avancer avec le Seigneur. Mais il faut que tu apprennes à découvrir les principes de la foi. Regardons ensemble ce que Jésus cherchait chez les gens. Matthieu chapitre 9. J'aime bien enseigner sur la foi parce que ça m'inspire toujours beaucoup. Regardez chapitre 9 verset 27 de l'évangile de Matthieu. Il est dit, comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David. Ne priez jamais comme ça si vous êtes né de nouveau. Aie pitié de moi, Seigneur. » Parce que vous êtes fils. Eux, ils n'étaient pas fils. À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, regardez bien ce que Jésus va dire, « Qu'il vous soit fait selon ma toute-puissance. » Vous avez ça dans vos Bibles ? « Qu'il soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sorti, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Vas-y, tu peux lire verset 27 à 31.
« Ngoye savayo, akiri kwa ragende mhumye zibiri, ziramu kurikira zisemerera, ziti tugirira imbabazi mwana wa Dawidi. Mwibuke yuko dukwiye gusenga gutyo, nimba twaravutse ubwa kabiri kuko turi abantu, dukwiye gusenga ngo tugire imbabazi. Ashitse mu nzu za mpumyi ziza kuri we, maze Yesu arazibaza, ati murizeye ko nshobora kubikora, nazo zitegome mushinga ntahe, acakora ku maso yabo, ati bibabere nk'uko jewe ndabishoboye. Ntimwakwirikiye. Ati bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka, Yesu arabihanikiriza, ati murumva, ntihagire umuntu abimenya, ariko basohotse bamukwiza muri icyo gihugu cyose.
Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on voit encore? Des gens qui veulent s'approcher de Jésus, qui placent une demande. Et là, on voit bien tout de suite une chose. Jésus leur dit, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Ah oui, Dieu, tu es tout puissant. Hein? Beaucoup de gens répondront cela. Ils demandent la prière.
Vous
dites, est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans cette situation?
Ah
ouais, Dieu est tout puissant. Hein? Il est tout puissant. Donc là, on voit encore, ça c'est en général, tous les chrétiens vous diront, mais bien sûr, Dieu est tout puissant. Ça fait partie de ses attributs. Donc Jésus va toucher leurs yeux. Mais, il leur dit bien une chose. Qu'il soit fait selon votre foi. Donc Jésus va mettre la responsabilité sur qui? Sur sa toute puissance? Non. Sur les personnes qui placent la demande. Et là, on voit encore cette étape-là. La première étape, c'est « Je sais que Dieu, tu peux faire ça. » Parce que tu l'as fait pour certaines personnes. Vous pensez que ces aveugles-là sont venus comme ça, d'un seul coup, en disant « Tiens, Jésus, oh, Jésus, il doit guérir les aveugles. » Non. C'est parce qu'ils avaient déjà entendu des témoignages. Ils avaient entendu qu'il y avait un certain Jésus qui guérissait des aveugles. Donc, ils se sont approchés de lui. Ils voulaient recevoir quelque chose. Mais Jésus les a mis au test de leur foi. Croyez-vous que je puisse le faire? Oui, Seigneur. Ok, maintenant, bien, on va voir si vraiment votre foi est réelle. Il va y avoir un test de notre foi. Nous parlerons que notre foi va être éprouvée. Et il va falloir que tu apprennes à réussir l'examen de l'épreuve de la foi. Si tu veux voir le résultat désiré, la rémunération, tu vas découvrir que ta foi va être testée. Et c'est là où Dieu, si tu réussis, t'amènera beaucoup plus loin. Il va rémunérer la foi que tu auras eue là. Et c'est des choses qui vont rester dans ton cœur, qui sont irremplaçables.
Ils
vont te permettre de croire pour plus après. Mais là, on voit bien que la responsabilité que Jésus met, ce n'est pas sur lui, c'est sur les personnes qui doivent recevoir. Et partout quand vous lisez l'Évangile, vous allez voir que la grande, grande majorité du temps, Jésus va chercher la foi. Quand il trouve la foi, sa puissance passe. Quand il ne trouve pas la foi, sa puissance ne peut pas passer. On va lire quelques autres exemples. Regardons ensemble maintenant dans Marc chapitre 2. Un miracle qui s'est fait parce qu'il y avait une atmosphère de foi. Il y avait vraiment une puissante atmosphère de foi ce jour-là. Et ça a amené un puissant miracle. Regardons ensemble chapitre 2 de Marc au verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, donc chez lui. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus connaît aussitôt par son esprit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait enseigner ici, leur raisonnement intérieur, et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralytique ? Est-ce que c'est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On peut lire le verset 5 et le verset 10, s'il vous plaît.
Ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ico kimuga ati mwana wanje ibyaha byawe urabihariwe ariko hari habanyabwenge bivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati niki gitumye avuga atyo ararogose ninde ashobora guharira ibyaha atari umwe niwe mana Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo acarababaza ati niki gitumye mwiburanya ibyo mu mitima yanyu icoroshe nikihe nokubarira kimuga ntuhariwe ibyaha byawe canke nokukibarira nti byuka wikore nderozo ya ugende ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mwisi bwo guharira ibyaha abwira ikimuga ati ndakubariye nti byuka wikore nderozo yawe utahe.
Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une atmosphère de foi. On voit quatre personnes qui sont déterminées avec une personne de voir vraiment leur ami être entièrement guéri. Est-ce que c'est le fait d'avoir découvert le toit qui a amené la guérison? Est-ce que c'est le fait d'avoir descendu le paralytique sous les yeux de Jésus qui a amené la guérison? Ça, ce sont des choses extérieures.
Et
il y a beaucoup de choses extérieures qui peuvent refléter une attitude intérieure de foi ou d'incrédulité. Vous savez, parfois, on fait certaines actions et on les fait parce que les autres ont fait ça. C'est pour ça
que
vous voyez, parfois, on entend des témoignages et on essaie de se comporter pareil, de la même façon à l'extérieur. Sans avoir une position de foi à l'intérieur. Et ça, ça
ne
marche pas. Et là, on est très frustré. Je crois que c'est arrivé à chacun d'entre nous. D'imiter des paroles de quelqu'un qui avait été béni, des actions par lesquelles la personne avait été bénie, elle a dit j'ai fait ça, ça et ça, et voilà comment Dieu agit pour moi. On a tous fait ça dans nos vies chrétiennes un jour. Et on a été déçus. Pourquoi ? Parce qu'on avait l'attitude extérieure qui n'était pas le reflet de réellement notre foi à l'intérieur. Nous verrons que la foi est une action, mais ça doit commencer à l'intérieur pour se manifester à l'extérieur.
Vous
voyez, il y a par exemple beaucoup de gens qui donnent à des ministères. Et parfois, il y a même des ministères qui abusent très largement en disant, voilà, si vous donnez ça, toutes vos dettes seront annulées. Ils vont dire, oui, il y a quelqu'un qui a donné à notre ministère et ça a été multiplié par 100. Et maintenant, si vous donnez maintenant, ça va être multiplié par 100. Et ils vont vous donner un ou deux témoignages qui est réel. Mais malheureusement, souvent, ils vont vous oublier de vous dire le reste.
Ce
n'est pas le fait simplement de donner qui va faire quelque chose. Donner peut être un aspect extérieur qui peut refléter des choses très diverses. Tu peux donner au Seigneur comme ça en disant voilà, je vais donner ça au Seigneur. Ça peut être le reflet d'une action de foi extraordinaire où Dieu t'a parlé clairement, où tu sais par exemple quand tu donnes ta dîme, tu sais que tu marches dans la foi. Et là, c'est vraiment connecté entre ce que tu crois à l'intérieur de toi avec les actions externes. Par contre, il y a des gens où leurs sentiments ont été remués et à ce moment-là ils vont avoir une action extérieure qui peut être bien, juste, digne, mais qui n'est pas le reflet de la foi. Et malheureusement ça ne fonctionne pas avec Dieu. Il va falloir qu'il y ait une connexion entre les deux, entre ce que tu crois et ce que tu fais par rapport à ce que tu crois. Je prends souvent les finances comme exemple parce que c'est typique. Les gens vont dire « Ah, je donne ma dîme, mais la situation est de pire en pire. » Oui, parce que la dîme doit être accompagnée d'un ça doit être le reflet de ce que tu es à l'intérieur au niveau de ta foi. Que Dieu est un Dieu de provision. Et des fois, on a vu des réunions de guérison. Quelqu'un va être guéri. Une autre personne qui a la même condition. Ça peut être même le serviteur de Dieu qui essaie d'encourager la foi de la personne. Mais la personne n'a pas la foi. Ou quelqu'un qui dit, tiens, lui à côté, il vient d'être guéri de ça. Moi aussi, j'ai le même problème. Donc, je vais faire la même chose que lui. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah,
il s'est levé, etc. Et il y a des gens, parfois, vous savez, par exemple, des paralysés. Vous voyez des gens qui ont la foi. L'évangéliste dit au nom de Jésus, lève-toi. Et la personne a la foi, elle se lève instantanément, guérit instantanément. Et vous avez par exemple la personne qui est juste à côté, qui n'a pas la foi et qui essaye de se lever et qui s'écroule par terre.
Oui,
on peut avoir la même attitude extérieure. Mais la vraie foi, ça va être d'abord avoir une attitude intérieure et manifester cette attitude intérieure par l'extérieur. On va voir que c'est très important de le faire. Là, je voulais faire cette parenthèse parce qu'on va revenir sur cette parenthèse. Donc ici, on voit qu'il y a une atmosphère de foi extraordinaire. C'est dans cette atmosphère de foi que ces quatre personnes étaient déterminées à voir leur ami être guéri par Jésus. Et cette personne aussi était déterminée à être guérie. Pourquoi ? Parce que quand Jésus va lui dire maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. Cette personne va se lever instantanément. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de voir dans des réunions. C'est pas moi qui faisais ces réunions, mais j'ai vu des évangélistes puissamment utilisé par Dieu, dire des choses comme ça à des personnes et voir ces gens se lever, être entièrement guéris. Et on voit vraiment la foi dans les yeux de la personne qui est là et qui va se lever par la foi, recevoir la parole qui leur est donnée, et d'un seul coup la puissance de Dieu va leur tomber dessus. Et cet homme-là, c'était ce genre de personne. Ils étaient tous dans une atmosphère de foi et la puissance de Dieu a pu couler. Vous allez me dire, oui, Jésus avait du succès partout où il allait.
Eh
bien, c'est faux. C'est complètement faux. Jésus, regardez dans Marc 6. Jésus, partout où il allait, n'avait pas 100% de résultats. Ça, il faut le comprendre. Nous allons voir un texte qui va nous montrer comment des gens, parce qu'ils avaient des préjugés sur le Seigneur, ils ont bloqué la puissance de Dieu. Vous savez, souvent les chrétiens prient de la façon suivante. Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre. Vous savez que c'est faux, ça. Dieu ne peut agir que selon notre foi. Si Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait sur la terre, tous les hommes seraient sauvés instantanément. Parce que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas sauvés? C'est très simple. Dieu a la capacité surnaturelle, la toute-puissance de sauver 6 milliards d'êtres vivants comme
ça.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'il faut un ingrédient indispensable. La foi qui va connecter la personne à la puissance salvatrice de
Christ.
C'est pour ça aussi que nous voyons des gens, par exemple, dans des croisades ou même des gens qui s'approchent pour la prière.
Dans
tous les pays du monde, on leur dit, vous voulez donner votre vie à Jésus? Ok. Ils se manifestent souvent en levant leurs mains, en s'approchant. Il y en a qu'une certaine proportion qui naissent de nouveau à ce moment-là. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il faut la foi du salut.
Ce
n'est pas le fait de lever sa main, de s'approcher, de répéter une prière qui va obligatoirement sauver une personne. Parce que la Bible ne nous dit pas que c'est en levant sa main et en s'approchant devant une estrade qu'on est sauvé. La Bible ne nous dit pas non plus que c'est en priant que nous allons être sauvés. Ah, La Bible nous dit qu'on est sauvé par quoi?
Ngo dukizwa n'iki?
Par la foi.
Ngo nukwizera?
Par la foi et par la grâce.
Nukwizera?
Le moyen de la foi.
Ngo ukwizera?
Mais la foi va être véhiculée par la prière.
Ariko uko kwizera nivyo gutwagwa n'isengesho.
Mais tu n'es pas sauvé par la prière.
Ariko ukizwa n'arya sengesho.
Tu es sauvé par la foi.
Ukizwa n'ukwizera?
En utilisant la prière.
Ukoresheje iryo sengesho.
Qui est un moyen de communication avec Dieu.
Ari naryo ukoresha kugira ngo uvugane n'Imana.
Voyez la différence.
Sinzi ko mubona.
C'est très important à comprendre ça.
N'ikintu gikomeye cyane.
Parce que souvent on a dit bon, si la personne a prié, elle est sauvée.
Kuko keshi tuvuze kuvuga ngo nimba yasenze irya sengesho yakijijwe.
Peut-être, peut-être pas.
Kumbure yakijijwe, kumbure ntiyakijijwe.
Ça dépend ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle à ce moment-là.
Bivana n'ingene muri we yarafise uko kwizera ko bigiye kuba.
Certains d'entre nous, moi je l'ai fait pendant plusieurs semaines avant d'être vraiment sauvé. Seigneur, sauve-moi.
Mana,
Seigneur, sauve-moi.
Gizaman.
Seigneur, sauve-moi.
Ndukwikira gizaman.
Seigneur, sauve-moi. Dieu, j'ai entendu qu'il fallait répéter cette prière, sauve-moi. Il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas la foi. Mais quand il y a la foi et que tu pries selon ce que la parole de Dieu te dit, là, il y a la dynamite de Dieu. Et c'est là où tu as été sauvé. C'est là où j'ai été sauvé. À ce moment précis, où la foi était dans notre cœur et que nous avons prié la prière du salut. C'est ça qui a déclenché la puissance de Dieu, c'est notre foi. Bien sûr, la Bible nous dit de confesser, et donc il va falloir parler pour être sauvé. Mais ce n'est pas la prière qui sauve. Nous sommes sauvés par la foi. La foi, bien sûr, va se manifester par la prière. Mais nous ne sommes pas sauvés par la prière. Nous sommes sauvés par la foi. Et notre foi va se manifester par notre prière. Jésus va aller à Nazareth dans Marc 6. Et Jésus était connu, c'est là où il avait grandi, à Nazareth. Je vous rappelle que Jésus est né à Bethléem. Mais il a grandi à Nazareth. Parce qu'entre temps, je vous rappelle que Joseph et Marie ont dû partir, ont dû fuir d'Israël. Parce que Joseph avait été prévenu divinement que l'enfant était menacé. Donc ils sont partis en Égypte pendant des années. Ils ont été réfugiés là-bas. Et ils sont revenus en Israël. Mais ils sont revenus non pas à Bethléem mais à Nazareth. Il est dit, verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère ou le demi-frère, on aurait mieux dit, de Jacques, de Jos, c'est-à-dire de Jude? De Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? On sait que Jésus avait des demi-frères et demi-sœurs, c'est clair. Ils étaient pour une occasion de chute, parce que c'était sa famille. Ils le connaissaient, mais ils le connaissaient avant l'onction. Et d'un seul coup, l'onction est descendue sur Jésus. La Bible nous dit, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put, du verbe quoi ici? Verbe pouvoir. Faire là aucun miracle, sinon de guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de quoi? Leur incrédulité. Versets 4 à 6, s'il vous plaît.
Ngo Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana nta buri cyubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe atari abagwayi bake yarambitse ku ibiganza.
Si vous relisez rapidement à partir du chapitre 1 de Marc. Là, on est dans Marc 6. Si vous lisez les 6 premiers chapitres de Marc,
les 5, disons,
vous verrez que Jésus va délivrer des démoniaques.
Jésus
va guérir la belle-mère de Simon. Va guérir un lépreux. Il va guérir le paralytique dans Marc 2, on l'a vu tout à l'heure. Et il va continuer à faire, il va guérir un homme à la main sèche, à la main paralysée. Et puis il guérit des gens constamment. Il guérit. Alors, on arrive. Il y a encore des démoniaques guéris, il y a la résurrection de la fille de Jairus, enfin, il y a plein de choses qui vont se produire.
Donc,
si vous lisez les 5 premiers chapitres de Marc, d'ailleurs dans l'évangile de Marc, c'est là où vous verrez le plus de guérisons et de miracles. Vous voyez Jésus aller d'endroit en endroit. Sa puissance se manifeste. Guérison, miracle, délivrance. Le même Jésus arrive avec la même onction. Dans un endroit différent, là où il a grandi. Et la Bible nous fait un commentaire. Parce que les gens voyaient Jésus dans le naturel. Ils avaient entendu qu'il était en train de faire plein de choses ailleurs. Ils ne le reconnaissaient plus. Jésus prend la parole dans la synagogue, il dit waouh, qui c'est celui-là maintenant? Alors qu'il avait été dans d'autres synagogues où il y avait des miracles. Et là, la Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle si ce n'est de guérir quelques personnes. Il ne va quasiment rien se passer dans cet endroit. À Nazareth, le ministère de Jésus a été à peu de choses près stérile envers ces gens-là. Comment ça? Lisez le passage. On l'a lu ensemble. J'ai bien dit que Jésus n'a pu. Du verbe pouvoir, lui, le Dieu Tout-Puissant. Au-delà de toute mesure. Qui a manifesté sa puissance déjà depuis plusieurs mois. Avec tout ce que Marc nous raconte avant, dans les chapitres précédents. Et là, d'un seul coup, on a l'impression que la puissance de Dieu va quasiment s'arrêter. Et si vous lisez les autres chapitres, quand il va se déplacer de Nazareth à d'autres endroits, sa puissance va se remanifester de plus en plus encore. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, la puissance de Dieu se manifeste beaucoup moins, si ce n'est quasiment pas? Alors que c'est le même Jésus, Dieu le Fils venu en chair, c'est la même onction. Mais ce n'est pas les mêmes cœurs. Et la Bible nous dit ici qu'il s'étonnait de quoi? Leur incrédulité. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Et c'est ce qui a limité la puissance de Jésus. Qu'est-ce qui limite la puissance de Jésus? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est le diable? La Bible ne nous dit pas que le diable a empêché Jésus de faire des miracles. La Bible ne nous dit pas que les démons se sont déchaînés et que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Il est dit que c'était les gens qui étaient incrédules.
Ils
voyaient Jésus avec leurs yeux,
avec
leurs préjugés.
On connaît
celui-ci.
Ils
le connaissaient selon la chair.
Mais ils n'avaient
rien compris selon l'esprit.
Et
ces gens-là,
ils
ont complètement limité le rayonnement de la puissance de Dieu dans leur ville.
Il faut
bien réfléchir à ça, frères et sœurs.
Plus
nous marchons dans la foi,
plus
la puissance de Dieu se libère.
Moins
nous marchons dans la foi,
moins
la puissance de Dieu se
libère. Il ne
faut pas être un grand docteur en théologie pour comprendre ça.
Il faut
simplement lire la parole de Dieu.
Donc,
il faut comprendre que ceux qui limitent la puissance de Dieu, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Donc tu peux dire Dieu est tout puissant, c'est bien.
Ça veut
dire que tu crois qu'il est capable de tout.
Maintenant,
il va falloir que tu apprennes, et c'est ce qu'on va voir dans les semaines suivantes,
à te
mettre dans la position
intérieure
avec lesquelles tu vas coordonner des actions extérieures
qui vont
montrer une atmosphère de foi dans ta vie.
Et
si tu fais ça,
tu vas
avoir beaucoup de choses de la part du
Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse.
Passez
une bonne soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.